premier verset, demander la pluie à l'Éternel. Donc nous avons à demander la bénédiction pour notre âme d'abord, et aussi pour le peuple de Dieu, mais enfin, il ne faut pas renverser les choses. D'abord pour notre âme, que quelque chose vienne de Dieu. Je ne sais pas comment, par quel chemin exactement ce que Dieu vous accordera, les jeunes et chacun de nous, quelle forme prendra la bénédiction de Dieu, mais ce qui est important, c'est qu'elle vienne d'en haut, et elle enrichit, nous dit le livre des Proverbes, la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Une pluie de bénédiction, ça vient d'en haut. Et nous pouvons être rafraîchis aussi par le ministère de la parole de Dieu, comme aujourd'hui. Et moi, je n'ai qu'un désir en parlant, c'est de mériter un tout petit peu cet hommage que Paul dit à Philémon, « Les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. » Le ministère de la parole nous rafraîchit. C'est une pluie qui vient d'en haut, parce qu'un don, c'est quelque chose qui vient de Dieu. L'homme, le serviteur, n'est pas grand-chose, mais c'est le Seigneur Jésus qui a donné les dons et qui, par ce moyen, nous rafraîchit. Mais les réunions ne suffisent pas. Il faut que nous nous rafraîchissions, que nous demandions cette pluie d'en haut, dans notre particulier. La sécheresse aussi, dans certains cas de l'Écriture, c'est pour nous faire voir qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne colle pas. Je pense à David. Dans l'histoire de David, on trouve qu'il y eut une famine, donc c'est une conséquence de la sécheresse, de 3 ans. Et David rechercha la face de l'Éternel. Et il a découvert devant Dieu que c'était à cause des Gabaonites qui avaient été mis à mort, donc Israël n'avait pas respecté le serment. Saül n'avait pas respecté le serment qu'on avait fait avec les Gabaonites. Mais voyez, il a fallu 3 ans de sécheresse et de famine. Alors il y a certaines circonstances dans notre vie qui nous amènent au pied du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Alors nous, peut-être dans le secret de notre âme devant lui, nous découvrons ce qui ne va pas. Et puis, dans d'autres passages de l'Écriture, la sécheresse est plutôt le signe de l'épreuve sans qu'il y ait d'infidélité. Je pense, par exemple, dans la vie d'Abraham, il est arrivé dans le pays, promis, à l'appel de Dieu. Il est là, il pérégrine dans le pays. Et puis, tout à coup, dans ce chapitre 12 de la Genèse, il est dit « Et une famine fut dans le pays ». Famine, encore, c'est l'extension de la sécheresse. Et là, est-ce que Abraham n'était pas dans le chemin de Dieu? Il était dans le chemin de Dieu. Il était fidèle et rien n'est relevé à son encontre. Et là, c'est la sécheresse type épreuve. Il y a des épreuves qui ne sont pas liées du tout à nos infidélités, mais plutôt à un test de la foi. Bon, il a mal géré le test. Il a échoué l'épreuve, Abraham. Il est allé en Égypte. Mais ça, c'est autre chose. Mais cette sécheresse ne correspondait pas à une infidélité d'Abraham. Et c'est corroboré par ce verset de Jérémie 17, ce beau verset de Jérémie 17 qu'on connaît bien, j'espère. « Bienheureux l'homme qui a mis l'Éternel pour sa confiance, il sera comme un arbre planté près des eaux. Même dans l'année de la sécheresse, il ne cessera de porter son fruit. » Même dans l'année de la sécheresse, dans la vie du croyant, il y a des années de sécheresse, c'est-à-dire d'épreuves. Et il ne cessera de porter du fruit. Pourquoi? Parce que ses racines s'étendent vers le courant, parce qu'il a une source de rafraîchissement. Peut-être bien que la faveur de Dieu, les circonstances extérieures sont contre lui. De ce côté-là, c'est un peu fermé. Il y a des périodes dans notre vie où on dirait que tout est contre nous. Mais le croyant se rafraîchit à des sources invisibles par les racines vers le courant. Et même dans l'année de la sécheresse, il portera des fruits, et c'est encore confirmé par un beau verset d'Ésaïe 58, et je termine par ce verset. Ésaïe 58, verset 11, « L'Éternel te conduira continuellement, il rassasira ton âme dans les sécheresses, et il rendra agile tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Il rassasira ton âme dans les sécheresses. » Le Seigneur est avec nous et nous rafraîchit dans ces temps d'épreuves, dans ces temps de sécheresse.
Dans Genèse, au chapitre 1er et au verset 4, ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, et tout arbuste des champs avant qu'il fût sur la terre, et toute herbe des champs avant qu'elle crût. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Oui, L'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Donc l'homme n'était pas encore là. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Il n'y avait pas besoin de pluie à ce moment-là. Une vapeur arrosait toute la surface du sol. Et puis quand l'homme est arrivé avec le péché, ben cette vapeur a disparu.
Nous arrivons à la partie suivante, donc sur les orages, tempêtes, la grêle, les vents violents. Avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais que nous lisions, donc on peut rappeler ce passage de l'épître de Jacques, très beau, qui montre que le cœur de l'homme de Dieu, doit rester stable. Et Dieu fait tout pour cela. Jacques 5, verset 7. « Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience, affermissez vos cœurs. » C'est l'état de l'âme qui compte sur Dieu. Alors, l'image est prise ici du cultivateur qui travaille le sol, plante, mais il a besoin de pluie. Il est parlé des pluies de la première saison, des pluies de la dernière saison. C'est un sujet, cette expression, nous la trouvons aussi dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, par exemple dans Deutéronome 11. Les pluies de la première saison, c'est les pluies de la croissance. Quand on sème, il faut la pluie pour que la graine germe. Et elle a lieu, donc il est plutôt ici question du blé, donc pendant la fin de l'automne et le début de l'hiver. Les pluies de la dernière saison, bon, ce sont les pluies de la fin du printemps, les pluies pour nécessaires à ce que le grain soit beau, le grain soit est une taille suffisante. Et il faut bien sûr aussi le soleil, ce sont les pluies de la dernière saison. Mais ici, on sait bien ce que sont les orages. On sait bien ce qu'est la grêle. Ça peut tout détruire. Et on accepte cela. J'ai eu des témoignages frappants de cultivateurs qui ont tout perdu par le moyen de la grêle. Mais ils s'en sont remis à Dieu. Et Dieu a apporté toujours une solution. Oh, c'est pas facile. C'est le temps de l'épreuve, l'épreuve de la foi, comme le dira l'apôtre Pierre dans le premier chapitre de sa première épître. Quand il dit, verset 6, où on va lire à partir du verset 5, qui est gardé par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. En quoi ? Vous vous réjouissez tout en étant maintenant affligé pour un peu de temps, par diverses tentations, si cela est nécessaire afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez. Et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Ce qui permet de traverser cette épreuve de la foi, c'est Jésus. Jésus que l'on aime, Jésus que l'on attend, Jésus sur lequel on compte. Mais il y a le vent. Job pourra dire dans le chapitre 38 de son livre et au verset 24, « Par quel dessein se distribue la lumière et le vent d'Orient ?» Se repose-t-il sur la terre ? Psaume 104, verset 3, il se promène sur les ailes du vent. Proverbe 30, verset 4, qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains ? Quel est son nom ? Quel est le nom de son fils, si tu le sais ? Alors dans ces versets que j'ai lus ou que j'ai rappelés, Dieu est là. Dieu a toute autorité. Le vent est là, mais c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le maîtrise et nous verrons de quelle manière il le fait aussi.
Et alors, il y a ce beau passage de Proverbe 30 que nous avons lu et qui est lié au vent. Qui c'est qui est sur les ailes du vent? C'est Dieu. Il y a son fils qui est là aussi. Quel est son fils, si tu le sais? C'est le Seigneur. Alors si l'épreuve est là, Dieu apporte toujours, avec l'épreuve, ce qu'il nous faut pour la traverser. Et dirigeons nos regards sur lui, dirigeons nos regards sur le Seigneur, et il consolera, il fera du bien à nos cœurs. Mais on aimerait bien savoir quand est-ce que cette épreuve arrive. Nous ne le savons pas. Le Seigneur dira, donc dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, il dira cela à Nicodème au verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Oui, il y a une belle comparaison là. La comparaison de ce que Dieu est dans sa toute-puissance pour le vent. Et il y a aussi le fait que tout homme qui est né de l'Esprit, qui a reçu la vie de Dieu, est un homme libre. On le sait, les autres ne savent pas d'où il vient et où il va, mais lui le sait, Dieu le sait. Il vit avec Dieu, il vit avec le Seigneur. Alors le vent, il peut être soit bienfaisant, soit destructeur, il peut être libérateur. Alors, bienfaisant, nous connaissons ce beau passage donc, dont Lucien a rappelé quelque chose. Quand la famine, la sécheresse a cessé au temps d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a donné un vent pour amener les nuages. Trouvons cela donc dans le premier livre des Rois, chapitre 15, sauf erreur. Dieu a amené la pluie. Par le vent, il a créé ce vent d'Orient. Donc il y a des vents qui sont des vents bienfaisants. Souvenons-nous aussi de l'autre vent que Dieu a donné pour amener des cailles, pour nourrir le peuple. Ils avaient faim, oui. Le vent n'est pas que mauvais. Il apporte, bien sûr, comme on l'a vu, la pluie. Il apporte aussi de manière exceptionnelle. Il l'a fait pour son peuple, ces cailles dont ils avaient besoin comme nourriture, oui, l'Esprit de Dieu souffle où il veut, quand il le veut, il nous apporte ce dont il est nécessaire. Mais il y a des vents destructeurs. Bon, nous connaissons bien le vent qui a amené la tempête au temps de Jonas. Jonas chapitre 1er verset 4, oui. Dieu créa un vent, donna un vent, la tempête est venue, et cela bien sûr était lié à la désobéissance de Jonas. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas que la désobéissance, il y a aussi l'épreuve, il y a aussi le fait que Dieu peut nous donner cela pour que nous grandissions, pour que nous croissions, c'est bien le but ultime. Qu'est-ce que nous avons lu dans la première épître de Pierre? C'est bien cela. Afin que l'épreuve de votre foi soit trouvée à honneur, afin que nous grandissions, afin que nous puissions être des adorateurs, pour pouvoir glorifier Dieu au temps convenable. Et bien sûr, là, dans la première épître de Pierre, c'est quand le Seigneur Jésus viendra pour établir son règne. Il y aura des témoignages extraordinaires de ce qu'il aura accompli dans les siens, dans ses enfants. Alors, il y a aussi